France Culture.
Réfléchir au système de l'État-providence dans le cadre des rapports entre économie et éthique, c'est toute l'ambition d'un homme qui a marqué l'histoire de la pensée philosophique et économique au Japon, Yuichi Shionoya, né en 1935 et mort en 2015. Cet universitaire d'influence dans son pays a aussi bénéficié d'une renommée internationale car il a contribué à tisser des liens, des ponts entre la pensée de personnalités que nous connaissons bien ici en Europe, telles que Menger, Schumpeter ou encore Keynes, et la façon dont cette pensée pouvait être mobilisée au Japon face aux enjeux auxquels le pays est confronté dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est donc à travers les évolutions de la philosophie économique telle que la porte et la développe Shionoya que nous allons remonter aujourd'hui près d'un siècle de structuration de la science économique, mais aussi des politiques économiques au Japon, des contestations sociales et environnementales des années 60 au tournant libéral des années 80. Shionoya pense l'état social à l'aune de principes éthiques, de justice et de morale, afin de construire une société bonne, good society, et c'est donc son parcours intellectuel, mais aussi celui de ceux qui l'ont précédé et accompagné, que nous allons retracer jusqu'à 15h dans cette émission préparée par Paul Weinarter, programmée par Bruno Barada. À la réalisation, c'est Françoise Le Floch, et François Saint-Jour assure aujourd'hui la mise en onde. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Gilles Campagnolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, affilié à l'Institut de sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Vous êtes ancien membre de l'Institut français de recherche sur le Japon, Japon dont vous êtes spécialiste. Et vous êtes le co-auteur avec Jean-Sébastien Garbi de Philosophie économique 2. Une introduction parue en 2019 aux éditions Matériologiques. Adrienne Sala, vous êtes avec nous à distance et vous êtes chercheuse et assistante professeure à l'université de Waseda à Tokyo. Vous êtes professeur en sociologie politique. Bonjour et bienvenue. Vous êtes à distance, je le précise, avec nous depuis le Japon. Donc voilà, il y aura parfois des petits temps de latence, mais nous allons bien évidemment faire avec. Gilles Campagnolo, pour débuter cette émission et comprendre quel est ce personnage de Yuichi Shionoya, dans l'article que vous lui avez consacré, paru dans la revue Philosophie économique en juin 2019, vous dites de Shionoya qu'il s'agit d'un économiste soucieux de la réflexivité au sein de cette discipline. Que faut-il entendre par là ?
Que c'est un philosophe économique. Merci Aliette de cette introduction.
Fin de l'émission.
Et je vais peut-être dire deux mots pour le présenter, ce personnage évidemment peu connu chez nous, sauf de ses collègues. Et il a tissé des liens, des ponts, comme vous l'avez justement dit, entre France et Japon, entre surtout aussi Allemagne et Japon. Et l'influence allemande sera à noter dans son évolution. Alors il est né en province, dans l'ouest du Japon, une des quatre grandes îles, la plus petite, s'appelle Shikoku. Il est né dans la préfecture de Kochi en 1932, d'une famille de lettrés. Son père, Tsutomu Shionoya, avait traduit la théorie générale de Keynes. Ses professeurs ont été d'abord à l'université de Nagoya, une des sept universités impériales que compte le Japon.
Alors, qu'est-ce qu'une université impériale ? J'ai lu ça également en préparant l'émission, mais je me suis demandé ce qu'était qu'une université impériale.
Alors, il y a un système mixte au Japon d'universités publiques et d'universités privées. La première université, nous allons parler de l'histoire du Japon et de l'économie, vous avez dit, dans son évolution. Donc, la première université, celle de Keio, fondée par Fukuzawa Yukichi dans les années 1860. Elle est privée. Et Fukuzawa Yukichi est le fondateur de la modernité dans la pensée japonaise par son appel aux études, Gakumon no Susume. Il écrit ce texte qui a une influence extraordinaire au milieu du 19e siècle. Voilà. Immédiatement, l'empereur veut également son université et fonde l'université de Tokyo. Six autres universités réparties dans le pays, dont celle de Nagoya, dont d'autres très lointaines, comme à l'époque l'île de Hokkaido au nord est une colonie quasiment. Il est fondé également une université impériale à cet endroit-là. Et ensuite, le système est dual, des universités publiques dans chacune des préfectures du pays et des universités privées. Les deux sont, pour certaines, très connues et très importantes, comme celle de ma collègue Adrienne, par exemple, celle de Waseda.
dans laquelle Adrien Salah se trouve effectivement actuellement. Adrien Salah, on a commencé à jeter les premières bases, on va dire, biographiques en ce qui concerne Yuichi Shionoya. On l'a dit, il naît en 1932 dans une famille de lettrés relativement aisée. Dans ces années-là, dans ces années 30, être issu d'une famille de lettrés, donc on l'imagine d'une certaine forme de bourgeoisie aussi, est-ce que c'est plus une règle qu'une norme? Dans quelle mesure il y a une forme de classe moyenne déjà qui émerge à ce moment-là au Japon?
Oui, alors dans les années 1920-1930 auxquelles vous faites référence, il y a effectivement l'émergence d'une classe moyenne, mais dirons-nous très très fragile. On est vraiment dans le balbutiement de l'émergence d'une classe moyenne qui se développera vraiment plus à partir des années 60. Et c'est vrai que dans les années 20, dans les années 30, l'essor de la société de consommation va porter en fait les racines d'une future classe moyenne qui pourra vraiment s'éployer plus tard. Et je pense que les origines bourgeoises, les origines socio-économiques de Shionoya vont bien sûr lui ouvrir en fait l'accès à l'éducation, l'accès à une culture scientifique, de par aussi son héritage, je pense, direct paternel. Si je me souviens bien, son père était également un économiste, était également un lettré, un universitaire et qui avait déjà travaillé beaucoup sur la pensée d'économistes occidentaux tels que Keynes, et je crois qu'il a reçu une influence directe par la voix de son père également.
Adrien Salah, on va rentrer dans ces détails biographiques avant cela, et puisque vous êtes vous-même enseignante au Japon et donc intégrée à ce système universitaire et intellectuel-là, j'aimerais aussi, pour que les auditeurs, les auditrices comprennent l'importance aussi de Shionoya, j'aimerais savoir vous-même, est-ce que lorsque vous avez étudié le Japon, et lorsque vous l'enseignez encore aujourd'hui là-bas, est-ce que Shionoya est un personnage incontournable? Est-ce que ça fait partie des grands penseurs, on va dire, là-bas? Est-ce qu'on ne peut pas ne pas tomber sur Yuichi Shionoya dès lors qu'on s'intéresse à l'économie ou plus spécifiquement à la philosophie économique?
Oui, bah, tout à fait. Oui, il est un personnage incontournable, je pense, de l'économie, de la philosophie économique et plus largement en fait de la pensée économique et philosophique. Il a vraiment développé. Il a vraiment été un passeur de savoir, comme vient de le dire Gilles, entre des penseurs occidentaux de l'école allemande, mais pas seulement. Plus tard, dans les années 70, il va être également un des traducteurs, et il va vraiment développer la pensée de Rawls, de John Rawls au Japon, donc plus tard dans les années 70. Donc il joue un rôle très important. Et il est incontournable. Il a vraiment développé toute une pensée conceptuelle de l'état-providence, de l'état social, en prenant en considération le contexte historique et social japonais. Il a également joué un rôle important dans son approche interdisciplinaire, ce qui n'était pas forcément très très développé, surtout dans les années 70, 80, 90, et il a vraiment, je pense, contribué à cette approche interdisciplinaire qui est en fait essentielle dans l'approche de philosophie économique par définition.
Gilles Compagnolo, vous souhaitiez réagir.
Tout à fait. Ce qu'a dit Adrienne est parfaitement exact. Il faut ajouter qu'en province, dans l'entre-deux-guerres, d'un milieu de lettrés, ça signifie qu'on est encore avec l'héritage des classes sociales du monde d'avant la modernisation. Et donc, il vient de ce monde-là et il va monter à Tokyo. Il sera, en 1972, professeur à Hitotsubashi, qui est une des grandes universités publiques d'économie de Tokyo. C'est l'ancienne école supérieure de commerce de Kanda, au centre de Tokyo, puis elle a déménagé dans la banlieue ouest de la capitale. Il en devient le président un peu plus tard. Il a été très honoré en 1991. Il a reçu le prix de l'Académie du Japon. En 2002, le Kurosha, c'est-à-dire le prix de la personne de mérite culturel du Japon. Il est d'abord devenu un spécialiste de l'école historique allemande, donc un spécialiste d'histoire de la pensée économique. Et puis, il a développé un certain nombre de contextes à partir de la pensée des valeurs qu'il a trouvées chez les Allemands. Société du juste, société du bien, société où on met en balance utilité et droit. L'un de ses ouvrages s'appelle Toyo Tai Kenri. D'un côté, Koyo Tai Kenri, d'un côté, l'utilité, de l'autre côté le droit. Et en 2002, il publie Économie et éthique, une philosophie de l'État-providence. Fukushikoka, donc l'État-providence dont la notion est extrêmement importante. Sa reconnaissance lui vaut également d'être nommé à la direction de l'Institut de la démographie et de la protection sociale, qu'il dirige pendant un certain temps, et d'une certaine manière, lui-même et ses collègues reproduisent là un modèle de conseil au prince qui est un modèle d'expertise des scientifiques, des universitaires auprès du pouvoir politique.
C'est ça, j'ai le compris. Il faut insister sur cette double casquette. Quand on est universitaire, on a aussi ce rôle de conseiller du prince.
Bureaucrate.
Exactement. Et c'est aussi une carrière qu'a embrassé de fait Shionoya.
Et c'est extrêmement important parce que ce rôle-là permet d'avoir une influence effective sur les orientations du pouvoir. Et c'est à travers un auteur spécialiste d'auteurs étrangers, donc dans son cas en particulier Joseph Schumpeter, que va transiter un certain courant de pensée et qu'il va être adapté, adopté, ajusté dans un environnement culturel et intellectuel tout à fait différent du nôtre.
Vous avez parlé, Gilles Campagnolo, d'économie et éthique, philosophie de l'État-providence. Il y a une autre citation dont je voudrais faire mention aujourd'hui et qui permet aussi de bien comprendre ce personnage qui est Shionoya. Il le dit: « Dans ce livre, nous avons tenté de remplir consciencieusement et méthodiquement notre devoir consistant à rapporter la dimension des idées à celle des systèmes. » Alors là, Gilles Campagnolo, il faut nous expliquer pourquoi Shionoya parle-t-il là de devoir? Comment conçoit-il sa propre mission, on va dire?
Alors, il faut peut-être du coup reporter la vie de Shionoya, 1932-2015, nous l'avons évoqué, de la province à Tokyo, de l'étude de l'histoire de la pensée à la philosophie économique et au conseil au prince, au gouvernement. Il faut la situer dans le contexte d'une génération, celle qui est née dans les années 20-30, fin des années 20, début des années 30, lui 32. La semaine dernière, Karine Nishimura, la correspondante de Radio France à Tokyo, a parlé de la peine de mort au Japon dans une émission qui passait à 16h. On peut mentionner, dans la même génération, Otohiko Kaga, grand auteur, aujourd'hui décédé également, qui, dans son livre La Condamnation, a donné l'équivalent japonais du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bien. Ces hommes-là naissent dans un Japon qui s'est modernisé et qui est au fait de sa puissance en Asie, dont le gouvernement tourne au nationalisme, dont l'expansion et l'ambition sont sans limite, et qui, avec la défaite de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de l'adolescence ou de la sortie de l'adolescence, il a 13 ans pour Shionoya, il a 15 ans, 16 ans pour Kaga, subissent la défaite. Le pays va complètement changer. Il faut reconstruire l'État sur une base qui n'est plus l'influence allemande, mais l'influence américaine, il y a des troupes qui sont appelées des troupes d'occupation sur place. La constitution qui est écrite avec l'aide des juristes américains. Donc ce monde-là va complètement changer. Quelque chose s'effondre et il faut le reconstituer. Voilà. C'est dans ce cadre de cette génération et de cette entreprise-là qu'il faut comprendre ce qu'il appelle un devoir. Il y a quelque chose à faire pour sauver le pays.
On va revenir sur ce contexte très particulier et ce tournant effectivement de la Constitution de 1946. Avant cela, Gilles Campagnolo, et pour qu'on comprenne bien aussi votre rapport peut-être aux travaux et puis à la personne aussi peut-être de Yuichi Shionoya, je crois que vous l'avez rencontré vous-même en 2008. Dans quelles circonstances ?
Mais j'étais invité et ensuite coopté par le Verein für Soziale Politik, qui est l'association allemande de politique sociale, de pensée économique, dans sa section d'histoire de la pensée, Dogmengeschichte, en 2008, à Berlin. Nous étions à la Freie Universität et je devais donner à ce moment un discours, qui ensuite a été publié, imprimé en allemand, sur la coopération et surtout la présence des archives en langue occidentale au Japon, dans les bibliothèques universitaires, dans les archives même des ministères, on y a moins accès, mais en tout cas à la Bibliothèque nationale. Il y a énormément de choses, elles sont importantes, j'ai donc présenté cela, et comme c'était consacré au Japon et à l'Allemagne, les autres invités étaient pour la plupart des Japonais, dont Yuichi Shionoya. En 2019, il était déjà décédé, sa fille a donné l'autorisation de publier la traduction française des textes inédits dont vous avez cité quelques phrases dans le numéro de la revue de philosophie économique de juin 2019, dans la traduction de Kaori Kasai. Ces textes ont été donc présentés en décembre 2019 à l'Université de Tokyo avec l'autorisation des presses de l'Université de Tokyo et de la fille de Shionoya, que j'ai rencontrée à cette occasion, une aimabilité qu'il n'y a pas besoin de dire. Ça, elle va de soi.
Et Gilles Campagnolo, c'est intéressant que vous mentionniez cet enjeu de la traduction, notamment de ces textes, pour les auditrices, les auditeurs qui voudraient se lancer, on va dire, dans la lecture de Shionoya sans maîtriser la langue japonaise. Concrètement, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui, alors en français et peut-être en anglais aussi, de la très vaste bibliographie de Shionoya, et qu'est-ce que ça dit aussi de sa reconnaissance à l'étranger et sa capacité aussi à traverser les frontières japonaises? Est-ce que c'est un auteur qui est beaucoup lu à l'étranger?
Alors, ajoutez la langue allemande.
Bien sûr.
Dans laquelle il a lui-même écrit. En français, on a peu de choses. Donc, je recommande le numéro 20, volume 20, numéro 1, donc, 2 juin 2019, de la Revue de Philosophie Économique, les excellentes traductions de Kaori Kasai, d'une part de l'introduction de cet ouvrage de 2002, Économie et éthique, une philosophie d'entrepreneur, qui s'appelle D'une rive à l'autre, et l'autre part, la grosse annexe sur l'héritage de la pensée allemande dans la pensée japonaise, toujours par Shionoya, en français. Il y a peu d'autres choses. En revanche, en anglais, langue dans laquelle il a écrit également lui-même, on peut s'intéresser à ses dernières œuvres, notamment son éloge de John Ruskin.
C'est plutôt à la fin de sa vie.
Voilà, c'est ça. Il s'intéresse, il retourne un peu à ce que son père avait fait pour Keynes, et il s'ouvre encore plus au monde anglo-saxon, alors que ses premières œuvres, dans les années 1980-90, sont centrées sur Max Weber, Joseph Schumpeter. Il a présidé l'association internationale Schumpeter et il a notamment fait tenir à Kyoto le congrès Schumpeter de 1992, qui a été très important dans l'histoire des spécialistes de cet auteur.
Alors justement, je vous propose d'écouter un extrait de ce fameux texte « L'économie d'une rive à l'autre » dans lequel Shionoya partage en 2002 sa vision de la philosophie économique. Un texte, nous l'avons dit, traduit par Kaori Kasai en 2019 pour cette fameuse revue de philosophie économique.
La société s'incorpore l'économie. Comment celle-ci se développe au sein de celle-là, c'est ce qui change en fonction de la manière dont se produit cette intégration. Le schème de la philosophie économique, tel que je la conçois, peut alors être présenté à travers la métaphore suivante. Imaginons l'économie comme un grand fleuve. Sur la rive proche, des institutions sociales se dressent, alignées comme autant de fondamentaux de l'économie, tandis que sur l'autre rive, on trouve divers produits de la civilisation, qui sont, en d'autres termes, comme les finalités de l'économie. Il y a aussi des idées, pour relier, comme autant de liaisons plus stables, ces mécanismes institutionnels à ces fruits ou produits de notre civilisation. À mon avis, la philosophie économique a pour devoir de réfléchir à la nature de ces trois catégories de l'économie, à savoir les institutions, la civilisation et ses idées. La philosophie économique ne peut pas se contenter d'observer seulement les mécanismes selon lesquels une économie fonctionne.
Adrienne Sala, vous nous l'avez dit, ce qui a marqué aussi l'approche de Shionoya, c'est cette interdisciplinarité. Là, on l'entend, c'est toute la métaphore d'une rive à l'autre. Est-ce qu'il faut comprendre, derrière cette initiative, que jusqu'ici, les disciplines étaient plutôt très compartimentées, on ne croisait pas philosophie avec économie. Lorsque Shionoya arrive à l'université, les choses sont bien cadrées, on va dire chacun dans sa case. Est-ce que c'est ainsi que les disciplines se conçoivent au Japon ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est très chaque discipline. Enfin, l'université japonaise est organisée sur un modèle assez proche du modèle anglo-saxon. La faculté de sciences politiques, la faculté d'économie, la faculté de sciences sociales, etc. Donc, il y a un compartiment en fait institutionnel au sein des universités japonaises qui est très fort et qui reste encore aujourd'hui très très prégnant. Donc, il y a l'interdisciplinarité et je dirais encore assez rare, même si dans certaines universités peut-être. Par exemple, l'université de Kyoto ou l'université du Tohoku, il y a une démarche pour vraiment accentuer la recherche plus que l'enseignement. Et dans cette démarche, pour vraiment investir dans la recherche, il y a forcément, naturellement, je dirais, une évolution vers une plus grande interdisciplinarité. Mais si on revient à la période dont on est en train de parler, les disciplines étaient vraiment très compartimentées et le passage d'une discipline à l'autre, je dirais, en termes de méthodologie, était relativement rare, et surtout dans des disciplines comme l'économie ou la philosophie. Qui, je crois, ne se parlait pas énormément avant Shionoya. Je pense qu'il y a un Gilles Campagnolo dans la diffusion aussi et dans le développement même de l'approche, enfin de l'approche ou de la discipline de philosophie économique.
Alors justement, Gilles Campagnolo, à vous revient la tâche peut-être de nous expliquer en quelques mots, ou en tout cas en moins d'une heure, puisque nous avons moins d'une heure, ce qu'est la philosophie économique et pourquoi Shionoya s'y intéresse-t-il, à partir de quel angle, de quel point de vue ?
Il va être possible de le faire en confirmant ce que vient de dire Adrienne pour la période d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale. L'influence américaine est telle qu'une grande partie de la pensée économique occidentale est emportée à ce moment-là. Ça va s'appeler Kindai Keizaigaku, l'économie de l'époque contemporaine. Et ce que nous, ici, avons l'habitude d'opposer, d'un côté les libéraux, de l'autre côté les keynésiens, les gens qui font avec des mathématiques, tout cela va être en fait réuni en un seul groupe, en une seule chose d'enseignement, qui va être l'économie moderne, entre guillemets. Tandis que l'alternative va être le marxisme, qui va être essentiel pour tout le monde académique de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur, disons, de Berlin, et un peu après peut-être, comme il l'avait été avant-guerre, avant d'être complètement brisé par le nationalisme. Donc, il y a ces deux courants-là. Dans l'entre-deux-guerres, le point important est que l'influence allemande, pour des raisons politiques assez évidentes, diffuse dans le monde universitaire, diffuse en philosophie, avec l'œuvre de Nishida, qui est proche de celle de Heidegger, mais on ne va pas y entrer ici, dans la pensée économique avec la naissance ou le développement, la fondation de la philosophie économique. Dans l'entre-deux-guerres, dans les dictionnaires, dans les lexiques de vocabulaire économique, le mot Keizai Tetsugaku, c'est-à-dire philosophie économique, existe au Japon. Il a été mis en avant par deux auteurs, Soda Kiichiro et Sugimura Kozo.
Ces deux auteurs-là sont très importants pour l'homme dont nous parlons aujourd'hui, Shionoya, mais il lui consacre un article à ces deux auteurs-là, juste pour remettre un peu des bornes chronologiques. On se situe là dans les années 20 pour ces deux auteurs-là, voilà, auxquels s'intéresse Shionoya.
Dans les années 90.
C'est-à-dire qu'il y a un pont qui se fait effectivement entre les deux périodes.
Les deux périodes où il y a un développement d'une tendance à l'unification, à l'unité des sciences sociales, c'est lorsque la présence ou l'influence allemande est importante dans les années 20-30, puis dans les années 90. Entre les deux, il y a cette compartimentation complète, ou très forte du moins, dans le domaine des différentes facultés universitaires. Donc, Shionoya va, dans les années 90, réactualiser et donner son importance à quelque chose qui est une volonté de compréhension des fondements de l'économie publique, des fondements des raisonnements économiques, une explicitation des concepts et des valeurs qui sont à leur base. Et vous voyez, avec ces trois choses que je viens de dire, explicitation des fondements de l'économie publique, explicitation des fondements des modèles, compréhension des notions qu'utilisent les économistes lorsqu'ils parlent d'un agent, lorsqu'ils parlent d'une institution, lorsqu'ils parlent d'une théorie, d'un système, etc., ce sont les composantes de la philosophie économique que vous me demandiez d'expliciter.
Mais Gilles Campagnolo, quand Shionoya arrive à l'université de Nagoya, on le rappelle, il est né en 32, donc il arrive à l'université, on va dire, quelques années plus tard quand même. Lorsqu'il y arrive, il y arrive pour étudier quoi ? Parce que de fait, la science économique, est-ce qu'elle existe à ce moment-là ? Est-ce qu'on parle de sciences sociales, de sciences économiques ? Qu'est-ce qu'il étudie précisément ?
Alors, à ma connaissance, il étudie effectivement dans la faculté d'économie. La division entre la faculté d'économie et les autres facultés s'est faite un peu plus tôt, ce qui nous renverrait peut-être à un contexte plus large. Comme en France, comme en Allemagne, mais comme en France, à la fin des années 1890, les facultés de droit comportaient encore l'étude des questions économiques. Puis, les gens spécialisés en économie se sont écartés, ont fait des facultés d'économie. Chez nous, ça se passe dans les années 1990. Eh bien, au Japon, ça se passe dans les années 1910-1920. Il y a notamment, avec l'anniversaire des 200 ans, 1923, des 200 ans de la naissance d'Adam Smith, à l'université de Tokyo, un grand colloque. Dans la foulée de cet anniversaire fêté en 1923, on a véritablement une séparation. L'économie devient autonome par rapport au droit.
Parce qu'on peut être présenté comme une victoire pour l'économie ou pas, puisqu'on on a beaucoup insisté sur le fait que l'interdisciplinarité avait été très, très importante. J'aimerais qu'on revienne sur l'apport dans ces années 20 de Kiichiro Soda et de Kozo Sugimura, qui sont eux aussi universitaires de l'université Itotsubashi, dans laquelle va enseigner plus tard Yoshio Noya. Ces deux personnages-là, alors qu'ils ont quelques années d'écart, il y en a un qui est plus âgé que l'autre, fondent tout de même la discipline de la philosophie économique, et en tout cas ils l'établissent quand même, et eux se penchent donc sur la philosophie allemande. Ils ont étudié en Allemagne, et elle est marquée, selon Shinoya, qui donc retrace cette jeunesse dans un article, par un néo-kantisme qui met en avant les Kulturwissenschaften, c'est-à-dire les sciences plus culturelles, on va dire, les sciences historiques aussi, et les Geisteswissenschaften, alors ça va être très compliqué à traduire, mais les sciences de l'esprit, voilà, bon, pour les mettre sur le même plan épistémologique que les sciences naturelles. C'était leur objectif, leur ambition, on va dire, intellectuelle. Or, Yoshio Noya le dit, dans les circonstances particulières du Japon de l'époque, ce courant allemand fut bien accueilli. Quand même, Gilles Campagnolo, je voudrais qu'on revienne sur ces circonstances particulières. Pourquoi, finalement, cette école allemande, vous l'avez dit, il y a des raisons politiques, évidemment, mais pourquoi ça prend à ce point? Pourquoi il y a cet intérêt, tout de même, pour cette école historique allemande?
Alors, pour comprendre cela dans les années 20, il faut revenir un peu plus d'un demi-siècle en arrière, dans les années 1850. Et même, on va revenir au-delà. De 1603 à 1868, le Japon est gouverné par un généralissime, par la famille d'une dynastie de généralissimes, qui sont les Tokugawa. C'est une période de guerre, de développement économique, qui n'a pas la révolution industrielle, mais qui a une modernisation capitalistique importante et avancée. Déjà. En revanche, il est impossible, sous peine de mort, de sortir ou d'entrer du Japon. Seuls deux ports, Kobe et Nagasaki, permettent le contact avec des commerçants chinois et hollandais, exclusivement. Pour comprendre à quel point la chose est importante, l'île de Deshima, dans le port de Nagasaki, est une île artificielle qui est fabriquée pour que puissent accoster les galions hollandais. Les échanges se font sur le pont. Bon. Il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a aucune influence. En réalité, on a trouvé des ouvrages qui apportaient des choses sur la médecine, etc. Du coup, la médecine va parler allemand, non pas hollandais, mais à l'époque, on développe les rangaku, c'est-à-dire les études hollandaises. Les Japonais sont convaincus que les Occidentaux parlent hollandais. Et puis, ils découvrent peu à peu, mais il est difficile de le faire sans avoir de contact, parce qu'il n'y a pas de contact. Donc, c'est plutôt l'anglais. Alors, la fin du Bakufu, ce gouvernement shogunal, dans les années 1850, est déjà en contact avec l'étranger. C'est là que les relations avec la France, notamment les relations diplomatiques, vont se forger. Avant la restauration ou révolution, la traduction exacte est restauration du pouvoir impérial à Meiji. Quand les Japonais se rendent compte qu'il faut moderniser et font cette restauration, ils vont chercher des modèles à l'étranger, ils vont comprendre comment l'Occident s'est modernisé. Et ils vont le faire de manière assez simple. Pour ce qui est de l'économie, les idées libérales anglo-saxonnes vont dominer. On va aller en Angleterre et aux États-Unis. Pour les idées de droit, la France va beaucoup dominer. Par exemple, pour le droit de la famille, le grand juriste Boissonnade a été conseiller du gouvernement impérial et à la fondation de l'université Hosei. Et pour la modernisation de l'appareil industriel en même temps que de l'armée, on prend comme modèle les empires centraux, c'est-à-dire la Prusse, devenue le Deuxième Reich, par la défaite de la France en 1870. Donc la Prusse d'un côté, l'Allemagne du Deuxième Reich et l'Empire austro-hongrois. Les missions, comme celle dirigée par Hirobumi Itō, qui deviendra l'un des grands premiers ministres et l'un des grands modernisateurs du Japon, vont à Berlin, à Vienne, entendre Lorenz von Stein, entendre un certain nombre de spécialistes autrichiens ou allemands, dont ils prennent l'inspiration, et ils copient le mode du conseil au prince, qui est une très vieille tradition germanique, qui remonte encore plus loin à la Renaissance et à la forme germanique du mercantilisme. Vous avez eu une émission sur le mercantilisme, qui est le caméralisme. Voilà. Cette influence-là, avec tous ces filtres, arrive au Japon. Les bureaucrates japonais sont avant tout imprégnés de conceptions du monde germanique.
Adrien Sala, c'est intéressant de retracer cette genèse-là, parce que dans un article que vous avez rédigé avec Gilles Campagnolo, que j'ai en face de moi, c'est un article qui date de 2022, qui est apparu dans la revue Économie Politique, vous dites, ou vous retracez pour le coup sous un angle un peu différent, c'est plutôt l'histoire du libéralisme qui va nous intéresser aussi aujourd'hui, vous dites que le libéralisme japonais n'est pas un produit purement exogène, ses origines remontent à l'époque de son isolement entre 1603 et 1863, et qu'il y a effectivement une culture de ce libéralisme qui naît à l'intérieur même du Japon. Ça rentre un tout petit peu en contradiction avec cette influence très grande, notamment de l'Europe au Japon, qu'on vient de décrire avec Gilles Campagnolo. Il y a tout de même une certaine culture économique 100% japonaise, si j'ose dire.
Oui, en fait, ce qu'on avait essayé de faire dans cet article et ce qui nous intéressait, c'était en fait, on repartait d'un concept qui est le concept de responsabilité individuelle et qui est un concept à l'inverse très contemporain et qu'on associe généralement au néolibéralisme, que ce soit au Japon ou dans d'autres démocraties libérales. Et on voulait s'interroger sur en fait les origines de ce concept de responsabilité individuelle, et on a adopté une approche historique et on est allé chercher en fait plus loin, donc dans des périodes antérieures, les concepts japonais qui auraient pu être à l'origine de l'évolution de cette notion de responsabilité individuelle. Et c'est comme ça qu'en fait on s'est concentré sur trois concepts, je dirais, d'inspiration néo-confucianisme, qui sont des concepts plus politiques qu'économiques, et qui sont donc les concepts de Jijō, Kyōjō et Kōjō, que je traduirai donc en français pour Jijō, l'auto-assistance, et qui est une traduction directe d'un concept anglais, le self-help, qui a été donc développé par Samuel Smiles. Le deuxième concept de Kyōjō, c'est l'entraide. Donc ça renvoie en fait à une solidarité au niveau de la communauté. Et le dernier concept qui est Kyōjō, c'est l'aide publique, c'est en fait l'intervention de l'État, en dernier ressort, si je peux dire, dans cette configuration. Et ce qui nous intéressait dans ces trois concepts, c'était le lien entre l'individu, la communauté et l'assistance publique, donc l'État ou une forme d'État social. Et donc plus qu'économique, en fait, je dirais que ce sont les fondements d'une forme de contrat social sur lequel, par la suite, s'est développé peut-être des principes économiques et donc d'inspiration libérale, grâce à ce socle en fait de coordination entre l'individu, la communauté, qui pourrait être remplacée plus tard par l'entreprise, et l'aide publique, l'assistance publique, avec une intervention plus ou moins forte, je dirais, de l'aide publique en coordination avec l'entreprise, le rôle de l'entreprise ou de la communauté et de l'individu. Et à travers l'individu, il y a bien sûr cette notion d'initiative individuelle, d'effort individuel, et donc on renvoie directement ici à la notion de travail, d'effort qui prime sur l'assistance reçue par l'autorité publique ou par la puissance publique.
Et ce sont des notions qui vont prendre toute leur importance, notamment au moment du tournant des années 1970-1980. Gilles Campagnolo, il faut peut-être aussi nuancer tout ce qu'on vient de dire. Effectivement, il y a quand même une culture économique japonaise. Tout ne vient pas nécessairement d'Europe. On le voit là, et notamment à travers une certaine culture de l'individu, du droit aussi, du contrat social spécifique. Il y a peut-être surtout, des choses à nuancer.
Surtout, il y a une adoption et une adaptation. Les formes sont différentes. Donc faites entrer quelque chose de forme carrée dans quelque chose de rond, vous allez devoir limer les angles ou rogner et reprendre. Cette adaptation trouve à l'étranger les aliments dont elle a besoin en fonction des directions, en pensant de manière assez univoque que telle partie de l'Occident représente tel genre d'idée. Le monde anglo-saxon, Samuel Smiles, self-help, les idées libérales. Les Japonais vont aller chercher, vont trouver une correspondance avec le concept de responsabilité autonome tel que vient de l'expliquer Adrienne. La bureaucratisation, c'est-à-dire la formation d'un État organisé, assez centralisé autour de la personne de l'empereur, laissant toutefois des grandes entreprises se développer, eh bien c'est l'exemple allemand des concernes. Cette formation-là, elle va avoir son influence. Chaque adaptation va être importante. Nous avons, avec Adrienne, écrit un autre article en anglais, publié dans Japan Forum, avec notre collègue vice-président de l'Université des langues étrangères à Tokyo, Gaikokogo Daigaku, Haruna Nobuo, sur l'influence dans les années 80 de la pensée de Friedman, dans les années 2000 de la pensée de Hayek et la manière dont cette adaptation s'est faite. Et en fait, il faut la comprendre comme un usage parfois très pragmatique et assez loin des théories mêmes par les différents groupes ou clans internes au parti principal, le Parti libéral-démocrate, Jimminto, qui gouverne quasiment en continu le Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a un usage qui ne veut pas dire que, pour autant, ce soit de mauvaise foi. On prend ce qui est utile. C'est vraiment cette attitude pragmatique qui, sans doute, explique tout du long du milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours, la manière dont le Japon accueille, recueille et transforme, à sa manière, les idées occidentale dominante.
Gilles Campagnolo, ce rapport à un certain pragmatisme, vous l'avez dit, est intéressant. Et si on reprend le fil aussi biographique, mais aussi intellectuel de Shionoya, on le disait, il y a ces deux personnages qui ont ouvert la voie dans les années 20 et dans la même université que Shionoya, donc Soda et Sugimura. Et ce qui est intéressant, et on l'apprend dans l'article que rédige Shionoya, c'est que leur travail consistait essentiellement dans un premier temps à se demander si le commerce ou l'activité économique privée constituait des sciences en tant que telles. Et progressivement, ils vont élargir leur réflexion sur les sciences humaines et sociales, mais en tout premier lieu, c'est quand même le commerce et l'activité entrepreneuriale qui les intéresse. On a là cette illustration-là, Gilles Campagnolo.
Et non seulement on a l'illustration, on a quelque chose qui est un cadre japonais très profond. Au XVIIe siècle, Hiara Saekaku, un auteur de littérature, raconte des contes de marchands. Et les contes de marchands, il écrit aussi d'autres livres sur le grand miroir de l'amour masculin, etc. Il y a de la littérature pure, de la littérature poétique, la littérature érotique, et les contes de marchands. Et dans les contes de marchands, il y a un détail sur la manière dont, par exemple, les prix sont affichés. Chez les marchands de tissus de la région de Matsuzaka, de l'ouest du Japon, à côté d'Osaka, et puis de Mieken, le département de Mie, ces départements-là, il y a une tradition de tissage, et de vente du tissu qui a fait de ces régions rurales des centres de richesse vraiment importants. Une des manières de vendre plus facilement et d'écouler plus facilement leurs produits a été d'avoir des prix fixes. C'est-à-dire qu'on marchandait jusque-là. On va chez le marchand, on voit les rouleaux de tissu, de soie, d'autres tissus, et on marchande le prix. Non, là on met une étiquette. Cette révolution de l'étiquette qui est, pour les Français, la révolution du bon marché. La révolution de bonheur des dames, Zola, la manière dont le grand magasin... Cette révolution-là, elle a lieu déjà au Japon antérieurement. Le commerce se développe. Ce qui se développe moins, et en tout cas ce qui ne se mécanise pas, c'est l'industrie. C'est-à-dire que la révolution industrielle que connaît l'Europe n'a lieu au Japon que dans une mesure moindre. On exploite les mines, on fait du tissage, etc. Mais on n'a pas la mécanisation qui va avec. On n'a pas la force vapeur. On n'a pas la force électrique et on tient comme ça jusqu'au moment où les puissances occidentales coloniales qui se sont partagées plus ou moins l'influence en Chine, eh bien, sont aux portes. À ce moment-là, on modernise. Mais les structures de la pensée commerciale et du capitalisme local sont déjà présentes. On a une théorie, alors elle est très discutée, on va le dire en deux mots seulement ici, selon laquelle c'est l'influence d'un régime qui ressemble au régime féodal européen qui est essentiel pour ce développement. Pourquoi ? Parce que dans un régime féodal, Moyen-Âge européen, Moyen-Âge occidental, et époque pré-Tokugawa, et pendant l'époque Tokugawa, sous la direction centrale, à ce moment-là, il y a des contrats entre un vassal et son seigneur, son suzerain, la fidélité au contrat est l'essentiel. Autrement dit, se développe une attitude de maintien de la parole qui est essentielle lorsqu'on va faire des affaires dans le monde moderne, dans le capitalisme. La parole donnée, ce qui s'échange sur une bourse du commerce, ce qui s'échange lorsqu'on achète des matières premières ou lorsqu'on achète des actions, lorsqu'on va financiariser tout ça, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a des banques, mais elles fonctionnent avec de l'or. Ça n'est pas encore fait. Lorsqu'ils vont chercher le système bancaire, ils vont venir notamment en France le chercher, sous le Second Empire, ce système, et ils vont l'appliquer au Japon. De la même manière pour la poste, le service postal, etc. Voilà. Les structures de pensée sont déjà là. La modernisation est possible.
On le voit, Shionoya arrive donc dans un contexte où d'autres ont ouvert la voie avant lui. Alors même s'il va y avoir, on va dire, un petit passage à vide, on va le dire, d'un point de vue disciplinaire, d'un point de vue intellectuel aussi, les bases d'une philosophie économique sont posées. Et puis un nouveau bouleversement, on l'a dit, va advenir, c'est celui de la Constitution de 1946. On en parle dans quelques instants. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture et nous dressons aujourd'hui le portrait de Yuichi Shionoya, représentant des évolutions de l'histoire de la pensée économique au Japon et pilier de la philosophie économique telle qu'elle se développe dans un pays confronté à la vaste marche de l'histoire. Une histoire que retrace pour nous le directeur de recherche au CNRS Gilles Campagnolo et la sociopolitiste Adrienne Sala. Le trio à cordes de Yoshiro Irino en 1965, c'est un extrait sonore proposé par Paul Weinerter qui a préparé cette émission, car Irino a étudié, a été influencé par la méthode dodécaphoniste de composition développée par Arnold Schoenberg. Or, Schoenberg est un Autrichien et nous parlons justement aujourd'hui du fait que Shionoya a été très inspiré aussi par cette école autrichienne et a contribuer à faire ses ponts, ses liens d'une rive à l'autre, comme il le dirait lui-même, entre Europe et Japon. Mais nous arrivons donc en 1946, nous l'avons dit. Alors Shionoya est encore assez jeune à cette époque-là, il a à peine une trentaine d'années, et on se situe donc à un moment charnière, puisque la Constitution de 1946 est adoptée, et c'est ce que raconte le Journal des Actualités Françaises, diffusé le 28 novembre 1946.
Image d'un monde qui bouge. Au Japon, toute la population a applaudi à la proclamation faite par l'ex-empereur Hirohito de la première constitution démocratique connue dans l'Empire du Soleil Levant et où s'affirme en termes absolus la souveraineté du peuple. L'ex-Mikado s'est ensuite aimablement prêté avec l'impératrice aux manifestations d'affection de son peuple. Car le fils du Soleil, en changeant l'auréole de sa divinité pour la tenue d'un petit comptable de quartier, semble avoir transformé en sympathie la vénération de son peuple. Allons, nous sommes en démocratie.
Adrienne Sala, que change cette nouvelle constitution? On a déjà parlé de l'influence américaine, mais là c'est une nouvelle conception du droit et donc de la justice sociale qui émerge alors, est-ce qu'on peut le dire ainsi?
Oui, je pense qu'on peut tout à fait le dire ainsi. La nouvelle constitution de 1946 joue un rôle extrêmement important, je pense, pour comprendre aussi le développement de la pensée de Shionoya et puis d'autres penseurs de la période d'après-guerre. C'est une constitution qui va consacrer des droits fondamentaux, donc notamment sur le plan économique, par exemple, et surtout du point de vue des travailleurs, le droit de grève, le droit de mobilisation, le droit à la vie, voilà, des droits, l'égalité des droits. Donc on a bien sûr aussi associé à ça une séparation des pouvoirs qui s'installe, qui n'existait pas dans la constitution de Meiji. Donc on a une prise de conscience sur les droits fondamentaux, sur les droits constitutionnels, qui va se répercuter sur les développements de concepts tels que la protection sociale, tels que l'État social, tels que la justice sociale, la justice redistributive. Et cette constitution va également aussi avoir une influence sur le marxisme dont parlait tout à l'heure Gilles Campagnolo, dans le marxisme d'après-guerre, qui va également, se développer en écho avec cette nouvelle constitution qui va permettre en fait les mobilisations sociales, les mobilisations des travailleurs, des mobilisations citoyennes également, pour justement faire respecter ou pour faire appliquer ces droits nouvellement consacrés, dont l'application desquels est, je dirais, il y a un décalage en fait entre l'existence de ces droits, leur consécration dans la Constitution et leur application concrète à travers les politiques publiques ou à travers les la position du gouvernement ou même plus généralement de la société.
Et donc on le voit, il y a un décalage entre les promesses et la pratique. Shionoya le dit lui-même dans l'article qu'il consacre à Asoda et Sugimura. Durant le demi-siècle qui suivit la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la science économique au Japon fut dominée par l'économie dite moderne d'une part et par l'économie marxiste d'autre part. Alors là, Gilles Campagnolo, il faut remettre Shionoya dans ce paysage-là. Lui, il fait figure de quoi ? Comment il se situe dans ce paysage intellectuel-là ? Alors même qu'on l'a dit, c'est un pionnier aussi de la philosophie économique. Quelle place il lui reste ?
Donc cette division entre le courant marxiste d'un côté et tout le reste de l'autre nous surprend parce que nous sommes habitués à d'autres types d'opposition. Typiquement libéralisme-keynésianisme qui a marqué pour le coup la même époque chez nous, l'après-guerre, selon que l'une, John Kenneth Galbraith aux États-Unis pour le keynésianisme, la politique de stop and go en Angleterre lorsque les gouvernements étaient keynésiens, lorsqu'ils étaient libéraux. Cette opposition-là ne fonctionne pas de la même manière au Japon. Tout cela, c'est de l'économie qui utilise des mathématiques qui modélisent, c'est de l'économie moderne. L'alternative, c'est le courant marxiste. Le courant marxiste est très fort dans le monde académique. Il est peu existant, à 3% de partis communistes de la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui, de manière stable. Il est existant, mais il n'a pas l'importance que ce mouvement a eu chez nous dans la société. Il l'a dans le monde des idées, il ne l'a pas dans la société. Même s'il est, je l'ai dit, 3% à l'époque, 3% aujourd'hui, tout à fait stable. Les penseurs, donc, ne fonctionnent pas sur les oppositions que nous avons en tête, mais sur ces questions de valeur. Il va y avoir un conservatisme qui va être mis à mal par la Constitution, parce qu'elle vient des États-Unis, et qui va, de temps en temps, tendre à réémerger avec des courants nationalistes. Le grand-père du Premier ministre Abe, Shinzo Abe, qui a longtemps été Premier ministre dans les années 2010, qui a été assassiné récemment, était déjà lui-même Premier ministre, et là on est dans la sphère nationaliste conservatrice. Donc, qu'est-ce qui reste comme espace ? Il reste l'idée des valeurs qui vont permettre d'adapter dans ce cadre, typiquement celui du pays, État-providence en japonais se dit Fukushikoka. Fuku, ça va être l'abondance. Le pays, koka, c'est la nation, avec les deux termes qui sont le pays donc, comme cadre et la maison, ie. La maison nationale, dans le foyer national, il y a de l'abondance. C'est-à-dire que lorsque nous entendons État-providence, nous pensons à quelque chose qui pourvoit. La providence est avant tout divine. Les physiocrates au XVIIIe siècle rappellent comment c'est Dieu qui fait pousser le blé et donne la richesse au pays.
C'est une forme d'interventionnisme très fort, quoi qu'il arrive.
En anglais, welfare state s'oppose à warfare state, c'est-à-dire état de bien-être par rapport à l'état de guerre. Oui. Donc, la notion française dans l'État-providence, la notion anglaise par opposition à la guerre, ne sont ni l'une ni l'autre celles du Japon. L'État ne va pas pourvoir. Il va laisser aux trois niveaux de responsabilité dont a parlé précédemment Adrienne le moyen de se développer. Et si l'une ne se développe pas suffisamment, c'est de sa faute. C'est-à-dire que la responsabilité individuelle est très importante au Japon, mais pas au sens où nous serions tentés, en particulier français, de l'entendre comme une revendication d'autonomie, de liberté individuelle, de droit, et demander toujours plus de droits. Non, comme un devoir d'autant plus important qu'on va le remplir soi-même. Et donc, il faut que chacun ait à remplir ses devoirs. Pour Shionoya, c'est premièrement les droits qui sont aussi importants que l'utilité à mettre en balance. Deuxièmement, la théorie morale qui se fonde sur ces droits selon des critères et des règles de justice. Et là, il rencontre la pensée autrichienne avec rule of law, la justice, la loi. Et troisièmement, une théorie de la vertu, Tugend, qu'il va chercher directement dans les pensées allemandes de la fin du 19e siècle sur les formes de vie, sur la théorie des valeurs, de la pensée philosophique et de science humaine, de Geisteswissenschaften, que vous avez mentionné précédemment, à la fin du 19e siècle allemand. Donc, être un philosophe économique, ce n'est pas être marxiste. Mm-hmm. Ce n'est pas simplement faire de la théorie moderne de l'économie. C'est vouloir que dans cette théorie moderne, quelles que soient ses différentes formes, ses vertus, ses règles de justice au sens japonais de la chose, s'accorde avec la version occidentale, eh bien, du droit, d'où on va au tribunal, de ces choses-là. Voilà. Ça, c'est la place de la philosophie économique, et c'est ce que Shionoya arrive lorsqu'il a atteint une position très importante dans sa carrière de président de l'université de Tsutsubashi, de président de cet institut démographique, notre INED, mais un INED puissance élevée, qui va jouer dans le conseil de la protection sociale pour le gouvernement.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement Shionoya arrive en 1972, on l'a dit, en tant que professeur à l'université. Adrien Salas, ce début des années 70, vous l'avez dit, ce sont des années de très forte contestation, mais ce sont aussi des années où les chocs pétroliers viennent frapper de plein fouet la situation économique du Japon. À partir de ce moment-là, quelles sont les réactions, et dans ce prisme-là aussi de ce qu'on vient d'expliquer sur Shionoya, mais quelle réaction politique, mais aussi plus philosophique quelque part, il y a vis-à-vis de la responsabilité de chaque individu à prendre sa part peut-être aussi dans un contexte de très forte tension économique.
Oui, c'est vrai que le premier choc pétrolier de 73, puis le second de 78, ont marqué un tournant, je pense, important dans l'économie japonaise, pas seulement d'un point de vue économique. Donc, c'est la fin de la haute croissance, cette croissance qui a duré pendant 20 ans, une très, très forte croissance. On retombe à ces taux de croissance vont diminuer, il y a le choc pétrolier. Et donc, il y a, à mon avis, du point de vue philosophique également, il y a un changement qui s'opère par rapport à la pensée qui se développait dans les années 60 et 70 vers, comme je vous disais tout à l'heure, une plus grande distribution, une plus grande justice sociale, une plus grande distribution, un début de réflexion sur l'État-providence au tout début des années 70 dans un contexte politique très très fort dans lequel le Parti libéral-démocrate était en train de perdre en fait une partie de son soutien avec une montée des contestations sociales et environnementales qui donnait donc un petit peu plus d'influence au parti de gauche, au parti socialiste et au parti démocrate. Mais avec le choc pétrolier, on revient en fait à une idéologie tournée vers l'économie à tout prix, l'économie étant comme prioritaire et le social étant finalement les questions sociales découleraient d'une économie qui fonctionnerait bien. Donc à partir des années 60, du milieu des années 70, on voit en fait une idéologie se tourner plus vers une pensée libérale, voire néolibérale à partir des années 80, dans laquelle, à mon avis, Shionoya va quand même trouver sa place en arguant que l'économie de marché, certes, elle est nécessaire. On n'est pas, je ne pense pas qu'il soit critique à l'égard de l'économie de marché, mais cette économie de marché doit rester fondée sur toujours associer l'éthique, elle doit toujours associer des valeurs fortes liées à la société japonaise. Ça peut être fois de responsabilité individuelle, mais également de solidarité. Et je pense qu'il a réussi à concilier les deux, et de justice sociale, donc avec donc ce troisième niveau de l'État social qu'il essaye de garder, même dans le contexte des années 70 et des années 80, envers et contre tout, je dirais, face à une montée en fait d'une idéologie plus libérale qui va d'ailleurs trouver forme à travers la politique de Nakasone, donc à partir des années 80.
Une idéologie.
Et il me semble qu'il y a là Oui.
Allez-y, Adrienne. C'est parce que j'allais justement vous demander si cette idéologie libérale et aussi de fait plus individuelle et donc plus entrepreneuriale, là encore s'inspirait d'autres penseurs autres que japonais. Et il y a évidemment la figure de Schumpeter qui revient à ce moment-là et qui est quand même bien mise en exergue à cette époque-là.
Oui, voilà, exactement. À travers la figure de Schumpeter, je pense qu'on a exactement l'association entre les idées, donc, l'évolution du contexte économique et social et des courants, donc, plus libéraux, voire néolibéraux. Et Shionoya qui, toujours, tout en soutenant, donc, l'économie de marché, mais en étant inspiré par la pensée de Schumpeter, va y intégrer des notions importantes comme l'innovation, la créativité, la figure de l'entrepreneur. Et à travers cette figure de l'entrepreneur et l'entrepreneur individuel, à mon avis, on retrouve ici une convergence entre des idées libérales, voire donc on aurait associé à des idées néolibérales à partir des années 80, et la pensée de Shionoya, inspirée par celle de Schumpeter, qui conserve la figure de l'individu et d'initiative individuelle, mais mais associé à des concepts de justice et de justice sociale. Voilà, sans forcément s'opposer à ces concepts-là et dans leur forme concrète contre l'État social.
Gilles Campagnolo, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné en tout début d'émission, de fait, Shionoya organise un fonds Schumpeter à l'université Itotsubashi. Il a rédigé en 1997 un article Schumpeter on the idea of social science. Qu'est-ce qui fascine Schumpeter à ce point chez Shionoya?
C'est ce qui fascine Shionoya chez Schumpeter. C'est cette alliance de l'innovation et de la compréhension de du rôle. Alors évidemment, on est dans un cadre de marché. Je l'ai dit, le Japon a développé déjà le marché avant même la rencontre avec l'Occident. L'étiquette des prix, le bonheur des dames, version Japon à travers les tisserands de Matsuzaka, il faut comprendre que c'est une richesse énorme qui est créée. Donc il ne s'agit jamais, sauf dans les idées des académiques, des universitaires marxistes, d'une socialisation de la production. D'accord ? Ceci est en dehors de la vie sociale. Dans le domaine des idées, on n'arrête pas d'en parler. Dans la réalité, on n'y pense même pas. En revanche, intégrer l'innovation, le fonctionnement du marché et la protection qui va avec les travailleurs, de la même manière, enfin, de manière analogue jusqu'à un certain point, comme toute analogie a ses limites, avec ce qu'a fait le Reich de Bismarck en Allemagne à la fin du 19e siècle, voilà l'important. La protection sociale est là. Je dirais qu'une liberté individuelle véritable n'est possible pour Shionoya que sous la condition de comporter trois mécanismes. Il faut d'abord la liberté du marché. Que signifie cette liberté? Par exemple, le fait de pouvoir acheter à volonté à tel prix qui est indiqué, etc. La justice sociale, les droits dont on a vu que la Constitution de 1946 les garantissait d'une manière ou d'une autre. Et justement, cette garantie d'égalité dont a parlé Adrienne, qui ne s'entend pas comme la revendication contestatrice à laquelle nous avons l'habitude de l'associer, mais comme un accord de différentes classes de la société pour qu'elle soit viable et vivable par tous. L'écart entre les revenus des grands patrons au Japon et le salaire moyen de leurs employés a toujours été extrêmement plus réduit qu'en Europe et en particulier qu'aux États-Unis. Et cela part à une sorte de consensus général. Donc ça, c'est le point important. Et c'est là qu'il faut souligner, d'un mot pour terminer, la place de Shionoya. On connaît peu d'économistes japonais, en fait, en France. Chez les marxistes, il y aurait Morishima, par exemple, qui a essayé de résoudre le problème de la transformation des prix, de la valeur en prix de manière mathématique. Mais sinon, on connaît peu de noms. On connaît finalement peu de noms d'économistes non occidentaux. Eh bien, on va prendre un autre exemple, Amartya Sen. Alors, Shionoya ne travaille pas sur Sen, est bien connu de vos auditeurs et en général.
Nous lui avons consacré une émission cette année.
Il vient d'Inde. Certes, il a été éduqué dans le monde anglo-saxon. Je l'ai eu comme professeur à Harvard il y a un certain temps. Pour autant, il vient bien d'un monde dont il s'est inspiré et qui n'est pas occidental au départ. Eh bien là, il y a deux exemples, avec Shionoya et avec Sen, d'une influence, d'une culture totalement différente sur des concepts nouveaux. Chez Sen, les capacités dont vous avez parlé lors de cette émission. Chez Shionoya, cette approche philosophique économique, c'est-à-dire d'unité de ces trois formes de garantie de la liberté individuelle véritable dans un pays comme le Japon. On dit souvent que l'individu n'existe pas. Bien sûr que si, il existe. Il existe dans le cadre où le marché pourra fonctionner de manière libre, où la société gardera une certaine justice par consensus et où l'égalité sera reconnue. Et cette égalité n'est pas la nôtre, elle est celle d'un pays où l'empereur, l'extrait que vous avez passé de l'Archivina était très intéressant, ne devient pas un petit fonctionnaire, mais où son statut, toujours différent de l'ensemble des autres Japonais, garantit en son centre la continuité du monde japonais à travers les transformations de la modernisation.
Gilles Campagnolo, une des grandes transformations, on l'a dit, c'est aussi la construction de cet État social. Et il ne faut pas oublier que Shionoya est l'auteur d'Économie, éthique, philosophie de l'État-providence paru en 2005. Dans quelle mesure, et ce sera peut-être le propos de la fin, dans quelle mesure peut-on dire que Shionoya est effectivement un penseur de l'État social?
Eh bien, il ne faut pas penser État social au sens où nous l'entendons. Il faut penser une société qui fait État. Je l'ai dit, Fukushi, l'État-providence, en japonais, c'est Fukushi-koka. Fuku, c'est l'abondance. Et koka est composé du caractère qui désigne le pays, le cadre territorial, et le foyer, la maison, chez vous. Vous êtes chez vous dans ce pays. C'est ce sens-là de l'État social qu'il faut comprendre. Et le sens d'État-providence, si vous faites une émission consacrée à l'État-providence au Japon, sera évidemment complètement indépendant et du sens français et du sens anglo-saxon. Il s'agit d'un foyer national de l'abondance, ce qui est quelque chose de tout à fait différent.
Eh bien, gageons qu'il y aura un volet 2 à cette émission où nous nous pencherons justement sur cette conception de l'État-providence au Japon. On l'a fait hier pour les États-Unis, donc vous voyez, tout est lié. Mais restez connectés, entendez-vous l'écho. Peut-être qu'il y aura un épisode 2 à ce début de série. Merci infiniment Gilles Campagnolo et Adrienne Sala d'avoir participé à cette émission.